9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain, le congrès des maires de France. Avec le retour d'Emmanuel Macron, le président avait séché le rendez-vous l'an dernier. Et les élus qui ont repris confiance. Seuls 28% des maires sont certains de ne pas se représenter en mars prochain en cas du Cevipof. C'était la moitié un an plus tôt. Qu'est-ce qui a changé dans les territoires? Philippe Laurent, le maire de Sceaux, secrétaire général de l'Association des maires de France, sera mon premier invité. Un discours d'Hitler retransmis à l'Assemblée nationale dans un hémicycle entièrement peuplé de dignitaires nazis. Image saisissante en 1940, cliché oublié de l'occupation allemande, remise en lumière par un documentaire. Son auteur Xavier-Marie Bonneau sera avec nous. La Josacine empoisonnée, une affaire criminelle qui avait déchaîné les passions et qui suscite 25 ans après les doutes de la mère de la petite victime Émilie. Corinne Tanet a rencontré longuement l'homme condamné pour avoir empoisonné sa fille, Jean-Marc Deperroy, qui continue de clamer son innocence. Deux souffrances face à face dans un livre troublant, La réparation volontaire. Corinne Tanet viendra s'en expliquer. Au générique également, le paléo-anthropologue Pascal Pic qui s'interroge sur l'avenir du genre humain dans Sapiens face à Sapiens. Et le cinéaste Lajdli, auteur d'un film coup de poing sur la banlieue, Les Misérables, grand prix du jury au dernier festival de Cannes.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Philippe Laurent.
Bonjour Patrick Cohen.
Maire UDI de Sceaux. D'abord un mot sur ce premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes où les casseurs hier ont tenu le haut du pavé.
Oui, c'est intolérable, inadmissible bien sûr. Et d'ailleurs, les maires de France qui sont aussi victimes, enfin leurs communes qui sont aussi victimes de ces dégradations, de ces violences, sont tous aux côtés de l'État et aux côtés des forces de l'ordre pour lutter contre cela. Malheureusement, j'ai le sentiment, et nous avons le sentiment, que le mouvement des Gilets jaunes a été débordé, s'est fait déborder par donc les casseurs. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs plutôt bien réagi hier. Tout ceci ne fait que discréditer un mouvement qui, par ailleurs, présente aussi et a présenté aussi l'intérêt de mettre en lumière ce que les maires avaient fait déjà avant, mais parfois pas toujours écouté, mais de mettre en lumière donc les difficultés de notre société.
Oui, ce qu'on peut dire dans le JDD ce matin, c'est que les violences, c'est tous les jours. C'est une cinquantaine de maires de villes moyennes, cris d'alarme publiés donc ce matin. Chaque jour, nous constatons la dégradation rapide du vivre ensemble, recrudescence d'incivilité et d'actes délictueux, dégradation d'une rare violence commise par une minorité agissante, banalisation de l'économie parallèle, omniprésence de rodéos, de motos ou de voitures. C'est la réalité de beaucoup de territoires, Philippe Laurent.
C'est pas la réalité partout et dans tous les quartiers, bien sûr, mais c'est la réalité dans beaucoup de villes. En tout cas, la montée des incivilités et des comportements incivils est une réalité. Il n'est pas d'ailleurs, évidemment, le fait que de jeunes. Il est le fait d'un grand nombre de nos concitoyens qui sont capables de monter le ton, de hausser le ton de manière extrêmement vive, très rapidement, ce qui montre aussi un certain malaise de notre société.
Oui, la violence, les incivilités qui touchent aussi les...
Des violences verbales.
Les élus locaux,
et les agents. Et les agents municipaux qui sont dans des fonctions d'accueil ou qui sont en contact permanent avec le public.
Le 102e congrès des maires de France verra donc le retour du président de la République mardi dans le parc des expositions de la Porte de Versailles. Il aura bon accueil ?
Il aura un accueil républicain, comme toujours, c'est-à-dire que les maires l'écouteront avec intérêt, comme ils écouteront aussi le discours de notre président, qui l'accueillera.
François Baroin.
Les maires écouteront le président de la République avec intérêt, je peux même vous dire qu'ils l'applaudiront à la fin. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont d'accord avec tout, ça veut dire qu'ils le remercieront d'être venus.
Alors qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Il y a un an, on se souvient, réception d'un groupe de maires à l'Élysée, mais pas de déplacement du président de la République devant le Congrès. Depuis, il y a eu donc le mouvement des Gilets jaunes, le grand débat, des garanties sur le financement des communes, enfin l'arrêt de la baisse des dotations. Vous êtes le spécialiste de ça, on peut en parler. Le projet de loi qui sera discuté demain à l'Assemblée aussi, pour faciliter la vie des élus locaux.
Oui.
Votre sentiment sur tout ça,
Alors,
Philippe Laurent ?
Il y a eu effectivement un changement important, mais je dois dire que ce changement a été aussi, d'une certaine manière, facilité par le fait que s'il n'y avait pas eu la présence des maires sur l'ensemble du territoire dans cette affaire d'organisation du grand débat, et même dans cette en tout cas tentative d'encadrement du mouvement des Gilets jaunes, les maires ont joué un rôle très important, qu'on n'a pas forcément vu, mais ils ont joué un rôle très important localement, ils ont facilité la tenue du grand débat. Je pense que si les maires n'avaient pas fait ça, je ne suis pas certain que ce grand débat aurait eu le succès qu'on lui a attribué. Et donc, les maires ont montré par là même qu'ils étaient toujours aux côtés de l'État lorsque l'essentiel était en jeu, parce que l'essentiel était à un moment donné en jeu. Et donc, je pense que le président de la République a compris un certain nombre de choses. Il a compris l'importance de ce tissu de 500 000 élus locaux sur l'ensemble du territoire, un tissu qui manifeste donc sa passion à la fois pour le territoire, pour ses habitants. C'est d'ailleurs ce qui explique, hein, c'est la passion de la plupart des maires qui explique qu'un certain nombre d'entre eux, eh bien, malgré tout, malgré les difficultés, se représenteront.
28% des maires donc se disent certains... Oui. De rendre leur écharpe en mars prochain, oui. En quête du Sévipov, il y a trois jours. Ils étaient près de 50% il y a un an à ne pas vouloir se représenter. Donc, ils ont retrouvé l'envie.
Bien sûr. Alors, la considération nouvelle que leur porte le chef de l'État est évidemment pour quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne règle pas les problèmes pour autant. Parce qu'il y a le chef de l'État, il y a les paroles tenues, il y a la considération, elle est réelle. Oui. Et nous en sommes heureux. Et. Nous en savons gré au chef de l'État. Mais par ailleurs, il faut aussi que derrière l'intendance suive, si je puis dire.
Et elle ne suit pas toujours.
Elle ne suit pas parce qu'en réalité, on a toujours autant de difficultés à négocier, à discuter. Nous sommes des partenaires de l'action publique. On n'est pas des sous-traitants, on n'est pas des entreprises qui vendent quelque chose. Nous sommes des vrais partenaires de l'action publique. Sans l'action des communes, de leurs services, des élus, d'ailleurs c'est vrai pour les départements et les régions aussi, le pays ne tient pas, il ne fonctionne pas. C'est normal, c'est notre rôle. Mais nous avons besoin que sur un certain nombre de sujets, il y ait une vraie discussion. Parce que nous savons comment ça se passe sur le terrain. Ce que ne savent pas toujours les administrations centrales, voire même un certain nombre de ministres.
À propos de
services, c'est là où ça pose problème.
À propos de services et d'administration, il y a le redéploiement d'agents de la fonction publique dans les régions et les départements. Il devait être 4 000 à quitter Paris, ce sont 6 000 à annoncer Édouard Philippe, notamment pour l'ouverture de maisons France Service où les habitants pourront effectuer toutes leurs démarches administratives.
Oui.
C'est important, c'est ce que vous attendiez.
Oui, c'est très important, bien sûr, c'est très important. Le chef de l'État avait annoncé d'ailleurs l'ouverture de ces maisons. Il y a un certain nombre qui existent de par l'initiative seule des collectivités territoriales. Aujourd'hui, l'État prend conscience que dans un pays comme le nôtre, qui reste un pays centralisé, l'État a besoin d'être aussi sur le territoire. Et cette déconcentration, si je puis dire, des moyens de l'État est évidemment une bonne chose. Après, bon, il y a toute une série de modalités concrètes et pratiques à régler. Mais enfin, en tout cas, tout ça va dans le bon sens.
Il doit y en avoir normalement une maison par canton à la fin du quinquennat.
La réalité du canton... géographique, elle n'est pas évidente. C'est d'ailleurs on avait trouvé assez étrange qu'on fasse référence au canton. On aurait pu faire référence à l'intercommunalité ou enfin bon, parfois peu importe.
Bon, le financement des collectivités, la suppression de la taxe d'habitation, le montant des dotations, c'est encore un sujet qui fâche entre les communes et l'État, Philippe Laurent.
C'est un sujet qui irrite. Parce que d'abord, sur les dotations, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est très technique et je ne veux pas y revenir. Mais en tout cas, il y a encore des communes qui subiront des baisses de dotations, même si d'autres connaissent une augmentation. Oui. C'est surtout sur la taxe d'habitation. Vraiment, nous avons toujours considéré que la suppression de la taxe d'habitation n'était pas une bonne mesure et ce n'était pas une bonne idée, parce que ça distend le lien entre l'usager contribuable citoyen et la collectivité, d'une part, et d'autre part, parce que le système de compensation qui est proposé par l'État n'est pas totalement satisfaisant. Il ne garantit pas, commune par commune, une compensation à l'euro près, et il ne garantit pas non plus ce qu'on appelle la dynamique des ressources fiscales, qui fait que lorsque on construit dans une commune, il faut que, évidemment, ces constructions nouvelles puissent rapporter du financement pour pouvoir aménager, construire les équipements publics qui accompagnent la nouvelle population. Vous voyez, et aujourd'hui, le système qui est proposé ne fonctionnera pas demain de manière satisfaisante. Nous cherchons à l'améliorer. Le Sénat a fait des propositions donc récemment pour le projet de loi de finances. Donc nous espérons que les propositions du Sénat seront reprises par l'Assemblée, ce dont nous ne sommes pas certains. Parce que nous avons aussi un exemple. Oui. De propositions du Sénat non reprises par l'Assemblée, c'est justement ce projet de loi porté par Sébastien Lecornu, qui comporte toute une série d'éléments positifs, mais qui comporte aussi des éléments pour lesquels nous pensons qu'il ne va pas assez loin.
Discussion demain à l'Assemblée. Un mot encore, Philippe Laurent, sur une initiative que vous avez prise, vous, à Sceaux, cette arrêté interdisant le glyphosate sur le territoire de la commune, sachant que cet herbicide est déjà proscrit dans les jardins, que les particuliers ne peuvent plus l'acheter. Quel est l'intérêt? Vous avez des exploitations agricoles à Sceaux?
Non, il n'y a pas d'exploitation agricole, mais nous avons beaucoup de copropriétés avec de grands espaces verts, et nous avons aussi le passage de voies ferrées. Or,
la SNCF a arrêté d'en utiliser.
Elle ne l'a pas encore arrêté. La RATP ne l'a pas encore arrêté. Elle a dit qu'elle allait le faire, donc on est très contents. Mais elle ne l'avait pas encore arrêté au mois de mai. Elle ne l'avait pas dit au mois de mai lorsque j'ai pris l'arrêté. Par ailleurs, sur les copropriétés, la loi ne garantissait pas l'arrêt de l'utilisation des pesticides dans les copropriétés. Donc nous avons souhaité aller jusqu'au bout, à la demande d'ailleurs de très nombreux copropriétaires.
Bon. Ça ressemble quand même à un coup de pub, s'agissant d'une commune urbaine.
C'est peut-être un coup de pub, mais je vous invite à lire le jugement du juge des référés qui a donc débouté le préfet de sa demande de suspension.
Oui, mais ça reste encore à juger sur le fond.
Oui, mais le juge des arrêtés a jugé que c'était au contraire un arrêté très important sur le fond.
Merci beaucoup Philippe Laurent, maire de Sceaux, secrétaire général de l'Association des maires de France. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, document choc, le buste de Hitler devant le fauteuil du président de l'Assemblée nationale face à un hémicycle peuplé de nazis en uniforme, objet d'un documentaire dont le réalisateur Xavier-Marie Bonneau sera mon invité dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
L'Assemblée nationale peuplée de nazis en uniforme, le palais Bourbon flanqué d'une banderole à la gloire du Troisième Reich, ce sont des images méconnues, ignorées souvent des livres d'histoire, tout comme le procès qui a condamné à mort 7 jeunes Français dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en mars 1942. Bonjour Xavier-Marie Bonneau.
Bonjour.
Écrivain et documentariste, vous avez réalisé ce film qui sera diffusé demain soir sur LCP, la chaîne parlementaire sur les années noires du Palais Bourbon. D'abord, comment se fait-il que parmi les lieux qui ont symbolisé l'occupation nazie à Paris, on a retenu les grands hôtels, l'avenue Foch, la rue Lauriston, mais on a oublié l'Assemblée nationale?
Je crois qu'on a eu honte pendant très longtemps que le cœur de la démocratie soit occupé par les nazis, et je pense qu'on a consciemment ou inconsciemment, les deux, on a oublié cette page-là de l'histoire de l'occupation, qui est une page bien réelle, puisque le Palais Bourbon a accueilli l'administration du Grosse Paris, ce qui n'est pas rien. Ouais. Il fallait aller au Palais Bourbon pour avoir des Ausweis, il fallait aller faire la queue au Palais Bourbon pour avoir X papiers. Donc voilà.
Il a fallu attendre 55 ans pour que le président de l'Assemblée, Laurent Fabius, à l'époque, en 99, ordonne une enquête historique pour savoir ce qui s'était passé dans ces lieux-là de l'Assemblée nationale.
Parce qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. On ne lui avait rien dit. Et un jour, il reçoit une lettre de M. Rizot, qui est le frère de Christian Rizot, qui a été fusillé et jugé au Palais Bourbon, et a été fusillé au Mont Valérien. Et cette lettre l'émeut. Il se dit, mais on ne peut pas ne pas parler de ça. 7 jeunes Français ont été jugés par un tribunal militaire allemand.
Dans l'enceinte du Palais Bourbon.
Dans l'enceinte du Palais Bourbon, ouais. Oui.
Il y a donc cette série de clichés. Alors, une photo d'abord, une première photo où l'hémicycle est entièrement occupé par des militaires allemands. Le drapeau nazi a été étendu au pied du perchoir, mais il n'y a aucun orateur visible.
Non, l'orateur, c'est Adolf Hitler lui-même, c'est le Führer lui-même.
Eh oui.
Il fait un discours depuis Berlin et ce discours est radiodiffusé dans plusieurs pays. Et donc, le Palais Bourbon est plein. Et effectivement, c'est assez surprenant de voir que les bancs des ministres, les travées, les sièges où se sont assis Jean Jaurès ou Mendès France, etc., sont
occupés par des nazis. Ils sont face à un poste de radio. Un poste de radio qui donc retransmet le discours d'Hitler,
radio, oui.
Et un buste du Führer qui est posé sur le perchoir.
Qui est posé là où est M. Ferrand aujourd'hui. Il y a le buste de Hitler. Je pense qu'ils en avaient plusieurs, mais il y a un buste qui a été retrouvé, comme vous le savez, au Sénat.
Les caves du Sénat.
Moi, je pense que c'est celui-là, mais enfin, je ne suis pas sûr. Et il y a tout ce parterre-là qui écoute religieusement le discours de Hitler.
Image terrifiante, étonnante, mais symbolique, seulement symbolique, contrairement au procès qui a lieu en mars 1942, donc dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Un procès, pour l'exemple, contre 7 jeunes Français, dont plusieurs militants communistes.
Procès, oui, le 5, 6 et 7 mars 1942. Ils seront fusillés le 9.
Au Mont Valérien.
Dans l'après-midi, vers 16h30, 17h. Et donc, de 7 jeunes résistants communistes et juifs, comme dit M. Klarsfeld, ils étaient forcément communistes ou juifs. On ne pouvait pas juger des Français s'ils n'avaient pas été communistes ou juifs. Il fallait qu'ils aient ce qualificatif. Ce sont des jeunes qui n'ont pas fait grand-chose. Ils ont commis des actes de résistance, il ne faut pas leur enlever. Mais ce pourquoi ils sont là, ils n'ont strictement rien fait, puisque c'est suite à l'affaire de Chateaubriand. Et leur chef est celui qui a tué le commandant Hotz à Chateaubriand meurtre qui a généré le massacre de Châteaubriand.
Des représailles.
Il moquait le moelle, etc.
Considérable.
48 fusillés, oui.
Et le commandement nazi en France fait le choix non pas d'une exécution sommaire, mais d'un procès à grand spectacle. Et pour trouver un cadre à ce procès,
c'est le cadre.
Le Palais Bourbon est choisi.
C'est l'humiliation absolue, c'est-à-dire que c'est la France humiliée. Hein. Ça, c'est les nazis, bon, c'était leur évidemment.
Des militants vous ont raconté l'histoire, qui ont donc été passés par les armes au Mont-Valérien, qui ont été jugés et exécutés par les nazis, mais arrêtés par des policiers français.
Il s'avère qu'après Châteaubriand, après cette affaire de Châteaubriand, qui est très importante, les Allemands ne peuvent pas faire d'enquête. Ils n'ont pas les moyens de faire des enquêtes en France. Les Allemands, vous savez, ils arrivent avec leurs uniformes, les gens leur parlent, oui, mais pas forcément. Qui est-ce qui va se charger de ça? Ben ce sont les fins limiers du 36 Quai des Orfèvres. Et ils sont très bons, c'est le commissaire Weber qui va se mettre sur eux. Il faut des policiers capables de faire ce genre de travail. Vichy les fournit.
Un commissaire Weber dont vous rappelez à la fin de votre documentaire qu'il a obtenu la Légion d'honneur en 1963, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas, même à titre posthume pour les jeunes qui ont été jugés, exécutés. Votre documentaire raconte aussi l'histoire des députés dont... plusieurs sont morts pas, au front, évidemment, c'est un aspect important.
Bien sûr, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas mettre le Palais Bourbon et les députés dans le même sac, ce sont deux choses différentes.
C'est à voir sur LCP, demain lundi à 20h30, les années noires du Palais Bourbon. Merci beaucoup Xavier-Marie Bonneau.
Merci à vous de m'avoir invité.
Europe 1.
Démarche extraordinaire quand la mère d'une petite victime part à la rencontre de celui qui a été condamné pour son meurtre 25 ans après la mort d'Émilie par de la josacine empoisonnée. Corinne Tanet publie La réparation volontaire. A tout de suite.
Europe 1. C'est arrivé demain. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Je ne crois pas avoir jamais rien lu de pareil sur une grande affaire criminelle. Une victime qui tend la main à celui qui a été reconnu coupable du geste qui a brisé sa vie. Non pas pour un pardon, mais pour une réparation. La réparation volontaire, c'est le titre de ce livre qui paraît chez Grasset. Bonjour Corinne Tanet.
Bonjour.
Votre fille Émilie, 9 ans, est morte il y a 25 ans après avoir pris un médicament pour soigner sa bronchite. Suspect, puis coupable, Jean-Marc Deperrois aurait empoisonné au cyanure le flacon de josacine en croyant qu'il était destiné au mari de sa maîtresse. Une méprise meurtrière. Deperrois a été condamné à 20 ans de prison, il en a fait 12. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas définitivement tourné la page, non pas de ce drame évidemment, mais de ce dossier judiciaire?
Il faut que vous sachiez que depuis 1994, nous avons un questionnement sur le soir des faits. Voilà. Qu'est-il arrivé à Émilie le samedi soir, le 11 juin 1994, au domicile des Tocqueville, qui en avait la garde exceptionnelle parce qu'elle voulait assister à une fête médiévale avec son camarade Jérôme, fils aîné du couple Tocqueville. Et on ne sait pas, mon mari et moi, depuis 25 ans, nous ramenons sans arrêt, grâce aux procédures intentées par Jean-Marc Deperrois, notre questionnement sur le samedi soir et sur des faits, bien sûr, versés au dossier.
Des faits qui n'ont pas eu de témoins, pas de preuves, pas d'aveux. Mais à l'époque, tout semblait désigner Deperrois, à commencer par ses mensonges. Il s'est bien procuré du cyanure, il s'en est débarrassé, il le cache aux gendarmes. Vous aviez... une certitude à l'époque.
Il a une relation adultère avec Sylvie Tocqueville. Effectivement, Jean-Marc Deperrois a contre lui pas seulement un faisceau de présomption, mais des charges très accablantes.
Ouais. C'est donc après le procès, Corinne Tanet, que vous reprenez tout le dossier, relecture complète?
Non, bien plus longtemps après. Après le procès, je suis complètement, et le papa d'Émilie aussi, complètement abasourdi par ce qui s'est passé pendant quasiment 21 jours de procès.
Oui, avec un climat, il faut le rappeler, de grande hostilité à votre égard et de soutien à Jean-Marc Deperrois.
Et pour nous, c'était d'une totale incompréhension dans la mesure où on s'attendait vraiment à ce que ce procès nous permette de voir éclater la part de vérité qui nous manque depuis toutes ces années. Et en fait, ce procès est effectivement... est devenu en fait le lieu d'un désaccord absolu entre la partie civile, les médias et l'institution judiciaire.
Et donc, bien après, relecture complète du dossier judiciaire.
Grâce à des professionnels que j'ai rencontrés parfois par hasard, et avec lesquels je me suis liée parce que j'étais impressionnée par leur rigueur professionnelle. Et puis, ces personnes, dont une que je cite à part entière dans ce livre, Brigitte Carré de Luzancé, ancienne commandante de police judiciaire, qui effectivement a eu dès le début un regard qui, moi, m'a beaucoup intéressée puisqu'il rejoignait le nôtre.
Des oublis, des étrangetés, des incohérences.
On doit aussi préciser que Roger Merle, notre avocat, cet homme que j'ai beaucoup aimé,
disparu aujourd'hui,
avait aussi exactement la même approche de ce dossier.
Est-ce que ce sont ces interrogations qui vous encouragent à prendre contact avec Jean-Marc Deperroix qui se dit innocent, ou est-ce que de toute façon vous auriez fait cette démarche,
voilà,
Corinne Tanet?
Vous venez en fait de le résumer. Il était prévu que je fasse cette démarche. Je savais à un moment donné, après plusieurs années de psychothérapie, d'écriture, de lecture, de rencontres aussi, à un moment donné, moi j'ai eu besoin aussi d'évasion. J'ai besoin de prendre l'air. Donc je suis une marcheuse. Donc je suis partie marcher dans la montagne. Il n'y a rien de mieux que la montagne pour réconcilier l'homme avec le genre humain. Et j'en suis revenue là-bas un jour convaincue, disant « je suis prête ». Je suis capable de rencontrer Jean-Marc Deperroix, de le regarder droit dans les yeux parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et surtout, je sentais en moi, je me suis sentie à un moment donné libérée de toute cette colère et cette haine qui m'a envahie et dévastée pendant des années.
Cet homme que vous aviez rêvé d'étrangler, vous lui avez dit à Deperroix.
Je crois même que j'imaginais pire en fait. Mais voilà, je n'ai eu pendant des années qu'un seul désir, c'était le supprimer, voilà, lui faire subir ce que notre fille, elle, a subi de façon différente. Mais c'est vrai, pendant des années, je l'ai haï au plus profond de moi-même et mon désir était de mettre fin à ses jours.
Ce que vous nous dites, Corinne Tanet, c'est qu'avec la certitude, même avec la certitude d'un Deperroix coupable, vous seriez allé le rencontrer de la même façon.
Oui, je crois vraiment que depuis le début, ça fait partie, premièrement, de mes idéaux, voilà, ma philosophie de la vie. Ma philosophie de l'humanité, voilà, dans son absolue entièreté, avec ses dérapages, ses drames. Voilà. Je suis née dans une famille, on m'a beaucoup parlé de 39-45, donc je suis très sensible effectivement au mal. Et bien sûr, Hannah Arendt en a parlé mieux que moi, la banalité du mal. En fait, j'ai eu l'impression aussi, durant ces 20 années, puisque moi je vais dire que voilà, pour moi, tout est bouclé depuis 5 ans maintenant, je me sens réellement apaisée. Donc imaginez, c'est très long, 20 ans à faire subir à sa famille des tourments, de la colère, voilà, être tout le temps en rage. Et j'ai voulu effectivement comprendre qu'est-ce qui avait pu conduire Jean-Marc Deperroix à se retrouver un jour inculpé, puis plus tard jugé et condamné pour l'empoisonnement d'Émilie. Et je ne sais pas si je l'ai compris, mais effectivement, le rencontrer pour moi, ça a été vraiment essentiel.
Alors on va écouter Jean-Marc Deperroix. C'était après sa libération conditionnelle, en décembre 2009, il s'était confié à Pierre Rancé pour Europe 1.
J'ai décidé de parler aujourd'hui parce que je veux dire aux gens que je suis innocent. Ce n'est pas moi qui ai mis du cyanure dans la josacine. Ce n'est pas moi, il y a quelqu'un d'autre qui a fait ce geste-là. J'ai été condamné, j'ai perdu plus de 15 ans de ma vie et maintenant je me bats pour retrouver mon innocence. Je suis conscient que je vais créer sûrement un peu de détresse à monsieur et madame Tanet parce qu'ils ont perdu un enfant et rien ne peut venir soulager leur douleur, mais j'ai mon combat et je souhaiterais que monsieur et madame Tanet me comprennent.
Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter ?
De retrouver mon innocence. Retrouver mon innocence.
Jean-Marc Deperroix en 2009, c'est le même homme que vous avez rencontré, Corinne Tanet, avec le même
alors
état
c'est le même homme avec, voilà, il m'a tenu le même discours voilà, tout au long de ces conversations que nous avons décidé de renouveler. On ne s'est pas contenté d'une conversation, d'une rencontre.
Il y en a eu combien ?
Alors, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5, je ne me rappelle plus, mais c'était très long, j'étais épuisée, moi. 5h30, 7h, et j'avais en face de moi quelqu'un qui voulait absolument me convaincre qu'il était innocent. Je l'ai écouté très attentivement. Nous avons confronté nos questionnements respectifs sur le contenu du dossier judiciaire. Et c'est vrai, bien évidemment, si j'avais été insensible voilà, à ce qu'il me disait, je ne crois pas que ça aurait pu fonctionner. Et réciproquement, là, il dit, c'est un euphémisme, j'ai peur de provoquer un peu de détresse. Ah mais non, C'est même pas de la détresse. C'est un désespoir dans lequel nous sommes maintenant depuis 25 ans. Il y a cette petite fille qui, pour nous, était le centre de nos vies, voilà, qui était une pure merveille, qui nous a laissé en fait quelque chose d'important, qui m'aide aussi aujourd'hui. Les enfants qui sont aimés et choyés sont des enfants qui vous laissent beaucoup d'amour. Et donc, effectivement, moi, j'ai décidé à un moment donné que je ne gardais pas seulement cet amour pour moi, que j'allais aussi l'utiliser pour me reconstruire, pour à mon nouveau permettre à ma famille de vivre un peu sereinement. Je crois que nous avons toujours vécu, l'un et l'autre, le papa d'Émilie et moi, dans l'amour, le respect des autres. Et effectivement, quand je vois De Perrois la première fois, il y a effectivement, entre lui et moi, une terrible appréhension. Parce que je crois l'un et l'autre avions peur. L'un et l'autre avions envie de cette rencontre. Mais en même temps, il y avait une crainte terrible au-dessus de tout ça. Comment est-ce que ça allait se passer ? Et il s'est aperçu très vite. Moi, je suis quelqu'un de spontané, je ne fais pas semblant. Il s'est aperçu très vite qui pouvait me parler. Et moi, voilà, je lui ai dit en revanche, moi, je vais vous parler de choses qui vont vraiment vous déplaire, mais j'ai besoin de vous les partager.
Deux souffrances face à face, vous écrivez, je ne suis pas assise en face d'un monstre, d'une incarnation du mal, je suis face à un homme qui tente, avec maladresse, de se dépêtrer de son costume de coupable. La tristesse qui se dégage de lui le rend plus humain. Avec maladresse, il se défend mal. Vous trouvez que pour un innocent, il se défend pas bien.
Ça n'a pas été seulement notre point de vue, c'est aussi celui de notre avocat, le premier Roger Merle, qui a dû renoncer à ce dossier pour des raisons de santé, et aujourd'hui Laurent Decaune. Souvent, on est là, on va à des audiences complètement confidentielles, puisqu'elles sont à huis clos, et souvent Laurent Decaune, notre avocat, nous dit « mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi ». Il ne se rend pas compte qu'il dit ou qu'il fait n'importe quoi. Oui. Donc voilà, moi, en le rencontrant avec toutes ces conversations, moi, j'ai compris que chez lui, il y avait une ligne de défense qui n'était pas logique. Ou alors, il passe à côté d'éléments qu'il ne veut pas voir. Ou il m'a dit, je me souviens une fois au cours, je ne sais plus laquelle des conversations, vous me dites des choses que je ne savais pas. J'étais vraiment étonnée.
Il connaît mal le dossier judiciaire. Merci beaucoup, Corinne Tanet.
Merci, Patrick.
La réparation volontaire, votre livre chez Grasset.
Europe 1.
Dans un instant, l'Homo sapiens qui peuple la Terre depuis 30 000 ans. Mais pour combien de temps encore ? Question de Pascal Pic, le paléo-anthropologue. À tout de suite.
Europe 1. Comme chaque dimanche, vous retrouvez Patrick Cohen avec C'est arrivé demain.
Demain, quel sera l'avenir de l'humanité, de l'espèce humaine ? Comment vont évoluer les grands singes migrateurs que nous sommes aux yeux des anthropologues ? Cet Homo sapiens qui peuple la Terre depuis 30 000 ans, qui n'a jamais été aussi nombreux, dont la condition a connu les plus grands progrès depuis 50 ans, mais dont le succès menace sa propre survie, sapiens face à sapiens. Bonjour Pascal Pic.
Bonjour Patrick Cohen.
Paléo-anthropologue au Collège de France, avec vous l'émission n'a sans doute jamais aussi bien porté son nom. C'est arrivé demain, parce que c'est l'étude du passé, du plus lointain de nos origines et de la fabuleuse capacité d'adaptation de l'espèce humaine qui vous conduit à nous interroger sur notre avenir. Le passé d'abord, Pascal Pic, c'est le triomphe de Sapiens sur les autres espèces humaines, car il y avait d'autres espèces sur Terre il y a 40 000 ans. Il y a encore une part de mystère dans ce phénomène ?
De moins en moins, mais les découvertes sous cet aspect ne font que s'amplifier. Ça peut surprendre, surtout du point de vue de l'histoire et des historiens. On évoque, vers 40 000 ans maintenant, trois empires. C'est-à-dire l'empire sapiens, notre espèce qui émerge en Afrique, et une partie du Proche-Orient. L'empire néandertalien sur l'Europe jusqu'à la Sibérie maintenant. Et puis l'empire dénisovien, qui est connu par les gènes et moins par les ossements, mais qui contribue certainement à tout le peuplement de l'Asie orientale, qui est quand même une région absolument immense. Et donc, à partir de là, c'est un changement complet, puisque nous avons toujours appris qu'il n'y avait qu'un seul homme.
Ouais.
Et donc, on découvre qu'en définitive, à une époque, on parle beaucoup de biodiversité, comme vous le savez, pour des raisons qui engagent notre avenir, vous l'avez très bien introduit, mais d'un autre côté, on s'aperçoit que notre espèce a été extrêmement... notre lignée a été très diversifiée, et qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait qu'une seule espèce d'homme sur la Terre, nous les sapiens, est une aberration par rapport à ce nouveau regard qu'on a sur le passé.
Alors j'aime beaucoup la description que vous faites à la manière d'un zoologiste de l'Homo sapiens, de l'homme actuel ou l'homme moderne, qui est une espèce de grande taille, avec un corps dédié à une bipédie exclusive, avec de longues jambes et un pied court, le bassin est en forme de cuvette, le tronc en forme de tonneau, les épaules sont larges, avec des bras assez longs, terminés par une main courte et large, etc. C'est comme ça depuis combien de temps, Pascal Pic ?
C'est comme ça depuis plus longtemps qu'on l'imaginait, surtout au niveau du corps. Il faut savoir que nous avons une bipédie tout à fait exceptionnelle. Alors, ça c'est paradoxal. L'homme ne court pas vite, mais ils courent longtemps et avec une endurance. Nous sommes l'espèce la plus endurante qui a jamais existé sur cette Terre. Aucun animal, je veux dire une grosse bêtise, ne pourrait tenir un match de tennis contre Nadal. 3 heures à un tel rythme, il n'y a que l'homme qui peut le faire. Donc nous sommes une espèce qui ne court pas vite, qui n'a qu'une seule allure, avec un cervelet absolument phénoménal pour gérer tout ça. Et notre biologie est liée à un terme que j'utilise beaucoup dans cet essai, la plasticité. Nous sommes capables de changer extrêmement rapidement, d'un point de vue morphologique, qui est la taille et la forme, d'un point de vue physiologique, les fonctions de l'organisme, et d'un point de vue cognitif. Et aujourd'hui, les sciences modernes, notamment les sciences cognitives, nous montrent que ce que nous mangeons, nos activités, tout ça interfère avec notre cerveau. Tout ceci est une mécanique absolument incroyable que j'appelle la coévolution, qui nous a donné la capacité de faire ce que jamais aucune espèce n'a fait, s'adapter dans tous les écosystèmes.
Un mot encore sur la morphologie. Oui, oui. La description que je viens de faire, là, que je viens de rapporter, elle pourrait changer ?
Ça peut changer très vite. Regardez, alors, pas dans la structure, mais dans la taille et la forme, c'est-à-dire on restera des bipèdes, etc.
On a gagné des centimètres.
On a gagné 10 centimètres, mais là, ce que je décris beaucoup dans ce livre, ce qui est assez peu connu encore, c'est les interactions entre le biologique, et c'est votre question en fait, le biologique et nos cultures et nos techniques. On n'a pas changé génétiquement depuis 50 ans, mais on a gagné, comme vous l'avez dit, 10 centimètres de taille corporelle, 25 ans d'espérance de vie, ça plombe complètement la retraite par répartition, mais qui était quand même un bon principe il y a 50 ans, mais vous voyez où on en est aujourd'hui. Et l'évolution est toujours un compromis, c'est ça qui est important. Alors on voit bien les débats aujourd'hui, mais cette plasticité qui est réelle, qui est bien documentée pour nous, aujourd'hui peut faire que nous pouvons continuer à évoluer dans ces progrès, on peut l'appeler comme ça, des dernières 50 années, ou alors la plasticité fait que ça peut se dégrader très vite. Et aujourd'hui, on constate que dans tous les pays du monde, nous avons une partie de la population qui continue à faire émerger et à accentuer ces progrès, entre guillemets, qu'on a eu au cours des 50 dernières années, mais nous avons une partie sur l'obésité, la sédentarité, la libido, le QI, etc., qui décroche rapidement. Donc c'est le grand enjeu qu'on a aujourd'hui.
Une question qui est liée à certains de nos débats actuels. L'homme a toujours été omnivore ?
Absolument.
On a toujours mangé de la viande.
On a toujours mangé de la viande, les chimpanzés mangent de la viande. La question n'est pas viande ou pas viande, la question est de savoir quand la viande intervient dans l'adaptation de nos ancêtres, et ça c'est vraiment avec le genre homo, donc je ne tiens pas un propos anti-vegan, soyons clairs, mais néanmoins on a toujours mangé de la viande, et la question est qu'effectivement, nous avons abandonné l'omnivorie en accentuant dans les années 50, parce que la consommation de viande était une conquête sociale. Et donc, on a mangé beaucoup trop de viande, en négligeant donc tous les autres aspects liés aux végétaux et au mode de vie. Parce que quand on a commencé à manger plus de viande, c'est-à-dire quand la viande est devenue une stratégie d'adaptation dans le genre homo, et c'est pour ça que c'est important, parce que la viande est la seule nourriture qu'on trouve sous toutes les latitudes, à toutes les époques.
Ouais.
Eh oui. Donc ça a permis l'expansion d'homo, mais il y avait de la culture derrière. Mais attendez, ils avaient des activités physiques complètement dingues et des échanges sociaux importants.
Non mais puisqu'on parle d'évolution, est-ce que l'homme pourrait devenir herbivore ? Voilà la question.
Non, il ne peut pas. On peut se nourrir aujourd'hui avec la diversité que nous propose l'agriculture et la grande industrie agroalimentaire sans consommer de viande. Simplement, il faut prendre énormément de précautions. Je donne l'exemple au début de l'ouvrage de ce qu'on appelle les crudistes, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui aujourd'hui dans nos cités ne mangent que de la viande et surtout que des végétaux crus. Eh ben, ils ont des problèmes physiologiques, c'est assez compliqué. Donc ce n'est pas simple, on peut le devenir, mais c'est une opération, une adaptation qui demande beaucoup de connaissances et de précautions.
Et des adaptations individuelles et
absolument,
pas au niveau de l'espèce humaine ou de l'humanité entière. Alors dans votre livre « Sapiens face à Sapiens », Pascal Pic, vous expliquez que nous sommes entrés dans une phase critique de l'évolution humaine, mais pas forcément pour les causes que l'on croit. Par exemple, alors que beaucoup s'inquiètent de la surpopulation mondiale, 10 milliards d'humains en 2050, vous vous inquiétez de ce qui va arriver après, ça va baisser.
Absolument, puisque la génération des baby-boomers qui est la mienne, malheureusement, je doute qu'on fasse cette émission avec moi dans une vingtaine d'années, enfin qui sait, on ne sait jamais. Miracle transhumanisme, en attendant, c'est pas garanti.
Mais
la chose étant, c'est que c'est complètement empirique. Hein. Mais quand les populations humaines, bien sûr, commencent à ne plus faire d'enfants, elles n'y reviennent jamais.
On ne fait jamais le chemin inverse.
On ne connaît pas les raisons. C'est le problème du deuxième enfant en Chine, malgré toutes les sollicitations. En Allemagne, c'est catastrophique. Dans le sud de l'Europe, il n'y a que la France qui tire à peu près sa démographie. Mais aujourd'hui, avec les problèmes de fécondité, parce que là, ce qui est sous-jacent entre les jeunes hommes d'aujourd'hui et ceux de ma génération, 50% de fertilité en moins, en nombre de spermatozoïdes, et en termes de qualité. Et on voit dans le cas de Néandertal, qui va disparaître petit à petit entre 40 et 30 000 ans, qu'il y a une dégradation de la fertilité des mâles. Ça passe toujours par là. Et aujourd'hui, on a ce processus. Alors, je ne suis pas un pessimiste, hein, parce qu'on a les moyens.
Une dégradation de la qualité des spermatozoïdes.
Absolument, oui. Parce que tout ce qu'on appelle facteurs endocriniens, etc., il y a une multiplicité de facteurs, les pollutions, etc., font qu'on a une perte. Alors, les débats aujourd'hui, c'est GPA, PMA, etc., ne sont pas que des débats éthiques, ce sont des débats qui sont des enjeux qui vont s'accentuer à l'horizon 2050 pour le devenir de l'espèce
Homo sapiens. Vous parlez d'un risque d'effondrement démographique, absolument, au moins dans l'hémisphère nord.
Dans l'hémisphère nord. Oui, bah, c'est ce qu'on est en train de connaître. Oui.
C'est discours à rebours de nos débats actuels sur la surpopulation.
Bah, le débat de l'émigration, des migrations va être nécessaire par rapport à ça. Alors évidemment, ce n'est pas une question arithmétique. Ce n'est pas parce que nous, on fait moins d'enfants dans l'hémisphère nord et que dans l'hémisphère sud, ils continuent encore à en faire, ça va se régler comme ça. C'est une question d'anthropologie qui est beaucoup plus délicate qu'on imagine, mais qui va être extrêmement importante, de plus en plus vive, avec évidemment ce facteur 2050. Après cela, est-ce que nous serons capables d'assurer la pérennité de notre espèce ?
Sapiens face à sapiens. Qu'est-ce qui pourrait encore menacer sapiens, Pascal Pic ?
Menacer sapiens, eh bien, c'est le confort. 20% de jeunes obèses par rapport à ma génération en 50 ans, ce n'est pas un problème de génétique, c'est un problème d'environnement, de comportement, d'accès à la nourriture, d'éducation, de parentalité. Et tout ceci, vous voyez, le fait que nous soyons plastiques peut se dégrader extrêmement vite, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, l'espèce humaine ne disparaîtra pas. Ce n'est pas ça. La question de savoir, quelle est la partie de l'humanité qui survivra à ces changements importants qui sont en train de se manifester.
Qui sera le dernier homme, dites-vous, au début de votre livre ? Sapiens face à sapiens, ça paraît chez Flammarion. C'est un ouvrage très sapiens, c'est-à-dire très savant, mais qui nous ouvre des perspectives immenses et fascinantes. Merci beaucoup, Pascal Pic.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, Lajli, le cinéaste des Misérables, grand prix du jury au dernier festival de Cannes. Film Choc. À tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
24 heures dans la cité des Bosquets à Montfermeil avec une caméra mobile qui colle à un trio de la BAC, trois flics qui patrouillent sans brassard, en voiture banalisée, qui jouent au shérif au milieu des gosses et de quelques caïds. Cela nous renseigne comme un documentaire, c'est filmé comme un thriller et scénarisé comme un drame vers la catastrophe annoncée. Il y a eu La Haine de Kassovitz, il y aura Les Misérables de Lajli, film qui a secoué le dernier festival de Cannes, grand prix du jury. Bonjour Lajli.
Bonjour.
Quand on dit film réaliste ou ultra réaliste, vous le prenez comme un compliment, c'est ce que vous avez cherché ?
Oui, bien sûr, je le prends comme un compliment, sachant que je viens surtout du documentaire. J'ai tourné plusieurs documentaires avant de faire ma première fiction et c'était important pour moi d'apporter ce côté documentaire dans la fiction, ce côté très réaliste, donc je le prends vraiment comme un compliment.
En 2005, vous aviez filmé les émeutes, c'était 365 jours à Clichy-Montfermeil. Et vous venez de Montfermeil. Vous avez grandi dans ces rues-là qu'on voit.
C'est ça. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi à Montfermeil. Donc, ça va faire plus de 30 ans que j'y habite. Aujourd'hui encore, j'y habite. Et voilà, j'estime que c'est mon studio de tournage. C'est là-bas que j'ai tourné quasiment tous mes films.
Et donc, c'est là que vous avez pioché les idées, les scènes des Misérables.
Oui, tout ce que vous voyez dans le film, j'estime que c'est avant tout un témoignage que j'ai voulu apporter. Et tout est tiré de faits réels. Quelque part, c'est un peu ma vie, la vie des gens autour de moi. Donc ça a été avant tout un témoignage que j'ai voulu faire.
Le gamin qui filme avec un drone les filles par la fenêtre ouverte, oui.
Quelque part, c'est aussi un peu mon personnage. J'ai filmé ce territoire pendant plus de 15 ans avec ma caméra et le personnage de Buzz, quelque part, c'est un peu moi, c'est l'œil de la cité.
Le vol d'un lionceau dans un cirque gitan, ça aussi, vous l'avez vu ?
Aussi, c'est un truc que j'ai vécu quand j'avais 18 ans. J'ai un pote qui a piqué un cirque qui a piqué un lionceau dans un cirque. Pardon, et oui, c'est une véritable histoire. J'ai encore des photos du petit lionceau quand on avait 18 ans.
Et la vie quotidienne des flics, parce que la moitié du film, enfin tout le début, on est vraiment en immersion avec les policiers. Ça, vous l'avez vu aussi et entendu de vos propres oreilles.
Oui, aussi, pour avoir fait du cop-watch pendant plus de 10 ans. Le cop-watch, ça consiste à filmer les policiers quand ils intervenaient dans le quartier. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en les filmant. Jusqu'au jour où j'avais filmé cette bavure policière que j'avais diffusée sur Internet. Et suite à cette bavure et une enquête de l'IGS, des policiers condamnés. Donc oui,
c'était un gamin menotté qui était tabassé par les policiers.
Qui s'est fait tabasser pour les policiers. Donc j'ai un rapport assez particulier avec ces policiers pour les avoir filmés pendant plusieurs années, pour avoir eu plus de 50 plaintes de ces policiers, pour avoir fait plus d'un nombre incalculable de gardes à vue. Donc oui, c'est vrai que
vous avez fait
on
des
est assez proche.
Donc ça laisse le temps d'observer les policiers.
Totalement.
L'une des scènes de début se déroule sous un abribus quand le trio de policiers aborde un groupe d'adolescentes.
Bonjour, mademoiselle. Contrôle de police. Vous faites quoi, là ?
On attend le bus.
Quoi ?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là ? C'est à toi, ça ? T'as quel âge, toi ?
15.
15 ans ? Et à 15 ans, tu fumes ? Ça sent le shit, ça ? Hein ? Bon, il est où ? Tu l'as mis où ?
Vous avez pas le droit de m'assommer.
Je fais ce que je veux. Tu l'as mis où ?
Vous avez pas le droit de m'assommer comme ça.
Comment ça, j'ai pas le droit ? C'est l'état d'urgence, si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris ?
Mais c'est pas normal.
Ferme ta gueule, toi.
Vous avez pas le droit de faire ça.
Tu veux faire 48 heures ?
Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit.
Eh, hey, c'est bon, c'est bon.
Ça va, je gère. T'as trouvé ça où ? Tu veux que je continue à te palper ou pas ? Tu fais quoi, là ?
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là ? Petite conne, va. Allez, dégagez, là. Toi, arrête de fumer, c'est mauvais pour la santé. Hein ?
Bad cop, good cop, un gentil flic débarqué de sa province qui dit bon ça va, et un méchant qui se prend pour le roi de la cité, des ados qui se font humilier. Le film qui se développe ensuite est beaucoup plus subtil et complexe que cette opposition de gentil et de méchant, même si Chris, le flic qu'on vient d'entendre, est quand même un connard.
Oui, ça reste le connard de la bande, ça reste le policier de là-bas qui se pense au-dessus des lois. Et malheureusement, c'est un personnage qui existe vraiment. Cochon Rose existe, on s'est inspiré d'un vrai personnage. Et il se trouve que souvent dans les équipes de la BAC, dans ces quartiers, bah, c'est souvent ce même trio, le bad cop, le plus cool et le nouveau qui débarque et qui est un peu dépassé, qui ne prend pas vraiment parti.
Mais vous avez essayé d'éviter le cliché, les clichés, le manichéisme.
C'était super important pour moi. J'estime qu'aujourd'hui, on parle souvent des banlieues à travers nos médias, à travers les politiques, mais malheureusement, il y a un fossé énorme entre ce qu'ils racontent et la réalité du terrain. Donc pour moi, c'était important d'apporter de ces témoignages, de dire comment ça se passe de l'intérieur et surtout de ne pas prendre parti, de ne pas porter de jugement sur mes personnages. C'est important aujourd'hui. Ce n'est pas un film anti-policier, je le répète souvent parce que c'est le cas. C'est un film qui parle avant tout de la misère. C'est un film qui s'appelle Les Misérables, et Les Misérables, c'est et les habitants et les policiers. Je me mets à la place de ces policiers qui travaillent aussi dans des conditions difficiles, qui ont des salaires très bas et qui, pour la plupart d'entre eux, vivent aussi dans les cités HLM. Donc,
c'est tout le monde. Les enfants, qu'on appelle les microbes, les ados, les caïds, les intégristes, il y en a aussi.
Les religieux, plutôt qu'intégristes.
Les misérables, c'est tout le monde. Mais le spectateur, même s'il se laisse embarquer par votre mise en scène qui est formidable, par l'histoire, par la rapidité, il se pose en permanence la question. Qui est responsable de la montée de la violence ?
Enfin, moi, j'estime que les politiques sont les premiers responsables, vraiment, de cette situation qu'ils ont laissée pourrir depuis plus de 30 ans.
À cause du chômage et de la pauvreté ?
À cause de tout ça, chômage, la pauvreté, l'isolement, les violences policières. Donc c'est un tout, ça fait plus de 20 ans que ces habitants réclament leurs droits, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'ils se disent abandonnés, et ça fait plus de 20 ans qu'ils ne sont pas entendus.
Ils ont vu votre film, c'est politique ?
Le film sort le 20 novembre, on les invite à tous aller le voir, parce que c'est un film qui est important, c'est un film qui est avant tout patriote, parce que c'est un film qui parle de la France, et c'est important de le préciser, tous ces gamins qu'on voit dans le film, ils sont avant tout français, donc c'est bien de le rappeler que les politiques s'intéressent aussi à ces Français.
Le président de la République ?
On lui a envoyé un DVD, on attend qu'il nous fasse un retour.
Mais en tout cas, votre film vaut effectivement, Lajli, 100 discours sur la banlieue et je ne sais pas combien de plans d'action qui ne débouchent sur rien. Vous laissez, on va surtout rien raconter, mais vous laissez une fin ouverte. Elle est ouverte, cette fin, comme l'avenir de ces quartiers ?
Oui, elle est ouverte cette fin, parce que j'estime que malgré toutes les difficultés, malgré toutes les violences, mais il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir et il suffit d'avoir une vraie volonté politique pour faire bouger les lignes. Donc l'espoir, il peut venir de nos politiques, donc entendez-nous.
La volonté, Lajli, vous n'en manquez pas parce que vous avez mis 10 ans à monter ce film.
Oui, ça a été le parcours du combattant. Quand on veut faire un long métrage de cinéma, quand on vient de banlieue, quand on veut parler des différentes problématiques sur ces quartiers, Malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Et ce film, oui, on a mis 10 ans à le monter. On a eu beaucoup de problèmes, même pour le faire financer. Ça a été le parcours du combattant. Très peu de gens nous ont soutenus. D'ailleurs, je vais remercier Canal+ et la région Île-de-France qui ont cru à ce projet. Et voilà, le film, c'était un film qu'on a dû faire avec la moitié du budget. Mais bon, aujourd'hui, le film existe. Le film a un super parcours et c'est le plus important.
Mais il y a 10 ans, ce film-là, qui sera sur les écrans dans quelques jours, vous l'aviez dans votre tête?
Bien sûr.
Exactement. Bien sûr. Comme ça.
Exactement comme ça. Sachant que Les Misérables, ça sera sur différents volets. Il y aura 3 volets. Celui-ci, c'est le premier, Les Misérables. Il y a le suivant qui arrive dès l'année prochaine. Ça sera un biopic sur l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, Claude Dillin, qui est aujourd'hui décédé. Et ensuite, il y aura un 3e volet, là où on sera dans les années 90. Parce que le film, enfin la trilogie que j'ai envie de faire, c'est de raconter ces territoires sur ces 30 dernières années. Et chaque film correspond à 10 ans.
Les Misérables de Ladj-Ly avec des acteurs épatants, on va les citer, Alexis Malenti qui a collaboré aussi à l'écriture du film.
Et Giordano Giardellini, bien sûr.
Damien Bonnard, Jeanne Balibar aussi, étonnante. Et votre fils,
oui,
qui pilote le drone.
Alassane-Ly, Saperica et tous les microbes, tous les habitants de Clichy-Montfermeil. Voilà.
Merci beaucoup Ladj-Ly. Les Misérables, mercredi prochain sur les écrans. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Merci de nous avoir suivis. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, à suivre dans le Grand Rendez-vous dans quelques minutes. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.